Le Seigneur dira donc qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant. Ce sera repris d'ailleurs par pratiquement tous les évangiles, en tout cas Matthieu, Marc et Luc répètent cela, et même à différents endroits. Alors n'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire un sermon à l'eau de rose, disant qu'il faut être bien gentil, comme un petit enfant, pour accueillir Dieu, parce que je ne crois pas que l'évangile soit vraiment un texte à l'eau de rose. Et d'ailleurs, il faut se méfier devant ce genre d'affirmation qu'il faudrait accueillir le royaume de Dieu comme un enfant, parce que Paul lui-même, l'apôtre Paul, dira tout le contraire. Enfin, pas tout à fait. Il dira en 1 Corinthiens 14, verset 20, je crois, il dira « Pour ce qui est de la méchanceté, soyez des enfants. Mais pour ce qui est de l'intelligence et de la compréhension, là, ne soyez pas des enfants, soyez des hommes mûrs. Parce qu'il faut réfléchir avec intelligence, et il faut se sentir responsable, il faut se prendre en main. Donc certainement, cette image est belle, qu'il faille être comme des enfants pour accueillir le royaume de Dieu, mais il ne faut pas la pousser trop loin non plus. Et je crois qu'il y a dans l'Évangile de très nombreux appels à la responsabilité, c'est-à-dire à être capable de réfléchir par soi-même, de se poser les bonnes questions, de s'engager, de vouloir faire des choses en se sentant donc responsable et libre de ce que l'on fait. Alors habituellement, ce passage où l'on nous dit qu'il faut être comme des enfants pour accueillir le royaume de Dieu, la première idée qui vient à nos contemporains, c'est l'innocence. On dit, ah voilà, un enfant, c'est innocent, et donc il faut accueillir le royaume de Dieu comme un petit enfant innocent qui n'a fait aucun mal, parce que les petits enfants qui viennent de naître n'ont jamais fait grand mal à qui que ce soit. Je crois que c'est fondamentalement une fausse piste. D'abord, c'est une erreur théologique, parce que ce serait incohérent avec l'ensemble de l'Évangile. Je ne crois pas qu'il faille être innocent pour entrer dans le royaume de Dieu. En particulier, le Christ lui-même dira à plusieurs reprises qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et l'Évangile, c'est tout le contraire de l'idée qu'il faille être pur, qu'il faille être innocent, qu'il faille être parfait pour accéder dans le royaume. Mais au contraire, toute la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le royaume, il est ouvert pour les aveugles, pour les estropiés, pour les rejetés, pour tous ceux qui sont blessés dans la vie, pour tous ceux qui sont pécheurs, pour tous ceux qui sont condamnés par les autres, pour les petits, pour tous ceux qui sont exclus de tous les systèmes sociaux ou religieux. Non, il n'y a pas que eux qui rentrent dans le royaume de Dieu, mais en tout cas, le royaume de Dieu est ouvert pour ces gens-là. Donc cette lecture habituelle de dire qu'il faille être innocent pour entrer dans le royaume de Dieu me semble finalement une sorte de mythe un peu moderne, et cette innocence de l'enfant est certainement une idée du 20 ou 21e siècle, mais je ne crois pas qu'elle était présente du temps du Christ. Ou alors il faudrait l'entendre autrement, disant que les enfants, après tout, je ne sais pas s'ils sont plus innocents que d'autres, font ce qu'ils peuvent, mais nous aussi on fait ce qu'on peut dans la vie. Mais au moins les enfants ont peut-être un sentiment d'innocence, et c'est peut-être ça qui les sauve. C'est que les enfants n'ont pas, enfin, je ne crois pas trop en tout cas, quand ils sont petits, ils n'ont pas, ils n'ont pas de sentiment de culpabilité. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut accueillir le royaume de Dieu, en se sentant libre et naturel. Le petit enfant qui tire sur un fil électrique et qui fait tomber la magnifique lampe faite dans un vase de Chine qui venait de votre arrière-grand-mère, ça vous embête, mais lui ne s'en sent pas du tout coupable. Et peut-être est-ce bien, finalement, de ne pas sans arrêt trimballer sur son dos des poids de culpabilité, et que le royaume de Dieu, il est pour ceux qui acceptent de rentrer libre. Donc je dirais, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir le courage, parce que c'est une forme de courage, avoir le courage de déposer ses valises de culpabilité et de dire « Dieu m'invite, et bien puisqu'il m'invite, j'y vais. Puisque la porte est ouverte et que Dieu accepte de m'aimer, moi j'accepte d'être aimé et j'accepte d'être sauvé. » Peut-être est-ce cela, finalement, une des idées que l'on pourrait y trouver. Mais je pense que le principal problème concernant ce texte et les principaux contresens que ce texte génère dans un esprit contemporain vient du fait que l'enfant, aujourd'hui, n'a pas du tout le même statut que celui qu'il pouvait avoir dans l'Évangile du temps du Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de période où l'on regarde l'enfant comme un roi. L'enfant, c'est C'est le centre de tout, c'est une chose merveilleuse, extraordinaire, grande, belle, précieuse. Alors que je crois que, autrefois, dans la civilisation du temps de l'Évangile, c'était tout le contraire. Et l'enfant n'était que très peu de choses, en fait. D'abord parce que les enfants mouraient comme des mouches, je dirais. Donc, un enfant avait plus d'une chance sur deux de mourir avant même de savoir parler. Et puis, d'autre part, les enfants étaient une sorte de main-d'œuvre à bon marché pour une famille. Une famille qui avait des enfants, c'était très bien. Ça faisait des esclaves qui n'avaient pas besoin ni de payer, ni franchement de soigner, et qui en plus, jusqu'à un certain âge au moins, ne se révoltaient pas. Donc finalement, les enfants étaient... c'était une main-d'œuvre bon marché. Les parents avaient le droit de vie et de mort sur les enfants à ce moment-là. Et donc c'était un esclave, en fait. Et d'ailleurs, la langue de la Bible va dans ce sens, hein. Puisque le mot « enfant », en grec « pais » et « eved » en hébreu, veut dire à la fois l'enfant et le serviteur. Et donc c'est le même mot, un enfant c'est un serviteur. C'est resté un petit peu d'ailleurs dans le français courant. Quand vous dites, il paraît que ça ne se dit plus, mais quand on dit au café « garçon », eh bien « garçon » ça veut dire l'enfant, donc le petit garçon, mais ça veut dire aussi le serviteur. Et par conséquent, ça c'est... L'idée que l'on trouve dans tous les commentaires bibliques concernant ce passage, c'est de dire que le message du Christ nous inviterait à nous considérer comme des serviteurs et que ce qu'il faudrait prendre en compte comme qualité essentielle de l'enfant pour s'approcher du royaume, ça ne serait pas la pureté, mais plutôt l'humilité et le fait d'être serviteur. Et là, c'est plus cohérent avec l'Évangile. Le Christ a dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il lavera les pieds de ses disciples pour montrer qu'il faut agir comme il l'a fait pour accéder au royaume, en quelque sorte. » Donc nous sommes invités non pas à écraser les gens et à les dominer, mais à nous considérer comme serviteurs et à nous humilier, je dirais, à nous rabaisser, d'une certaine façon, au plus bas de l'échelle de la société, comme les enfants étaient ce qu'il y avait de plus bas dans l'échelle de la société. Et c'est quand nous nous rabaissons que nous pouvons avoir une chance de nous élever jusqu'au royaume de Dieu. Ça, c'est la théorie de l'Évangile. J'avoue que je n'ai pas toujours été certain que cela soit vrai. Et en particulier, mon intérêt pour la théologie est souvent passé par la musique. Et il y a dans les cantates de Bach une cantate qui est faite sur ce thème, qui est la cantate BWV 47, que je vous invite à écouter, et qui dit justement « Qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé ». Et j'aime tellement cette cantate que quand j'étais élève en classe préparatoire, j'avais écrit sur le porte-document où je mettais tous mes cours, j'avais écrit en gros « Wer sich selbst erhöht, der soll erniedriget werden ». C'est le titre de cette cantate, « Qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé ». Et je trouvais ça formidable. Et puis je vois mon professeur de mathématiques qui passe, qui regarde ce qu'avait écrit, et il dit « Ah, vous croyez que c'est vrai ?» Et tout à coup, j'ai douté. Je me suis dit « Mais en fait, c'est faux. Non, qui s'abaisse ne sera pas élevé, et qui s'élève ne sera pas forcément abaissé. » Il faut dire que j'étais dans une logique de concours, et donc le but d'un concours, c'est d'écraser les autres et d'être meilleur que tout le monde, et ceux qui rentrent au-dessus, eh bien, ils ne seront pas abaissés, ils seront toujours dans le marché de l'emploi. Celui qui rentre à Polytechnique passera devant celui qui n'a pas fait d'études. C'est souvent comme ça, pas toujours, mais quand même souvent. Et donc, à ce moment-là, j'ai très profondément douté de ce passage, et je me suis demandé si vraiment c'était vrai ou pas. L'éventuelle solution que j'ai trouvée pour sauver, si ce n'est l'Évangile, au moins la cantate BWV 47, c'est de dire que peut-être c'était vrai en raison de ce qu'on appelle la théologie des deux règnes. C'est-à-dire qu'il y a le règne du monde et le règne du royaume de Dieu, et que les deux ne sont pas semblables. Par conséquent, il y a le règne du monde, qui est celui de la réussite professionnelle et sociale, et dans ce domaine, oui, certainement, celui qui s'abaisse ne sera pas élevé. Et il faut monter, progresser, se battre, lutter, même écraser un peu les autres pendant qu'on y est, pour s'élever. Et puis il y a l'autre règne, qui est le règne de Dieu, qui est celui de la réussite personnelle, du bien-être, de l'équilibre, de la satisfaction profonde. Et là, je crois que c'est autre chose et que ce n'est pas forcément en écrasant les autres que l'on se grandit soi-même. Et par conséquent, il y a deux règles, je dirais, qui s'opposent. Il y a la règle du monde qui dit qu'il faut s'élever et il y a la règle du royaume de Dieu qui nous invite à l'humilité. Et je crois que tout, justement, le problème de la vie du chrétien, c'est d'arriver à conjuguer ces deux dimensions, d'arriver à être à la fois le plus fort dans son métier et en même temps le serviteur de tous dans ses rapports personnels. Et peut-être est-ce d'ailleurs dans le sens d'un proverbe turc que j'ai entendu, je ne sais pas s'il est turc d'ailleurs, mais qui dit « Un homme digne de ce nom n'éprouve le besoin de se sentir supérieur à personne ». Et je crois qu'il y a là effectivement quelque chose de très vrai, donc je maintiens que celui qui s'abaisse sera élevé, ce qui n'empêche pas d'être performant dans ce monde. Autre source possible de compréhension de ce passage, c'est que l'enfant a une qualité fondamentale, c'est qu'il est en croissance. Alors il est en croissance, c'est-à-dire que l'enfant grandit. Et c'est peut-être quelque chose là que l'enfant peut nous apprendre. Parce qu'en effet, l'enfant est un être qui sans cesse découvre, apprend, et sans cesse est dans la dynamique. Et là, nous pouvons être comme cela, je crois, c'est-à-dire que même quand nous sommes vieux, nous pouvons être dans cette dynamique de toujours être en recherche, de toujours être à l'écoute, d'avoir les yeux ouverts, de chercher à comprendre, de grandir et de progresser. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire et que malheureusement, trop d'adultes oublient de faire. Trop d'adultes, finalement, se contentent d'une sorte de d'un lot de convictions de base en disant « moi, j'ai mes petites convictions, je ne les remets pas en cause et je ne veux pas être trop dérangé ». Mais accéder dans le royaume de Dieu, c'est être capable, justement, de garder les yeux ouverts et de pouvoir se remettre en cause. Ça, c'est quelque chose que savent faire les enfants. Et même la plupart d'entre nous qui ne sommes pas dans une phase de croissance physique, nous pouvons continuer à grandir intérieurement. Là encore, c'est quelque chose que dit Paul et que j'aime beaucoup, dans 2 Corinthiens 4, je crois. Il dit pour nous, même si notre être extérieur se dégrade, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc nous pouvons effectivement, comme un enfant, toujours être un être en croissance. Et je crois que jusqu'à sa dernière heure, on peut toujours apprendre à grandir, à condition que nous gardions cette capacité à nous ouvrir aux autres, à être capable d'aller de l'avant, de repartir, d'avancer sans arrêt. Autre piste, je vais vous en livrer quelques-unes, ces qualités de l'enfant que je crois trouver. Autre piste, c'est peut-être celle qui provient de ma lecture du psaume 131. Le psaume 131, qui est un psaume intéressant, puisqu'il commence par l'idée de monter, c'est un psaume pour monter, dit-il. Et le psaume pour s'élever, donc pour monter, il dit « Mon âme est en moi comme un enfant, je ne cherche pas des grands desseins qui me dépassent et des grandes choses extraordinaires, mais mon âme se tient en moi égale et silencieuse, comme un petit enfant près de sa mère. » Donc peut-être qu'il y a effectivement quelque chose là d'important, qui est que pour accéder au royaume de Dieu, certes, il faut apprendre à réfléchir, mais il faut aussi une forme de simplicité et une forme de savoir trouver un rapport naturel avec Dieu. Et le Christ dira encore quelque chose qui va dans ce sens, c'est en Matthieu 11, 25, quand il dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Alors moi qui aime la théologie, qui aime la réflexion, qui aime la philosophie, il y a là une leçon qui m'est donnée en disant « Prenez garde, la réflexion purement intellectuelle n'est peut-être pas suffisante. Et peut-être que dans le royaume de Dieu, il faut aussi à un moment donné savoir lâcher prise intellectuellement. Non pas tomber dans des sortes d'absurdités grotesques, mais lâcher prise et dire l'essentiel peut-être n'est pas d'ordre intellectuel ou conceptuel, mais à un moment donné, il faut simplement accepter d'avoir un rapport simple avec Dieu, un rapport naturel, et se laisser aller, je dirais, dans la relation avec Dieu. Ça va également dans ce sens que les enfants connaissent la confiance. Peut-être que la foi, après tout, c'est pas que de la dogmatique et de la doctrine, que la foi, c'est être capable de faire confiance et de faire confiance à Dieu comme son Père. Et là, il y a quelque chose de touchant, évidemment, chez les enfants, c'est cette confiance qu'ils ont dans leurs parents. Cette confiance, comme un enfant a confiance dans son père ou dans sa mère, au point de pouvoir, je dirais, se jeter du haut d'une armoire en se disant « Papa me ramassera », eh bien peut-être que le chrétien doit être capable aussi de se jeter dans les bras de Dieu, parce que c'est la relation, dans la foi plutôt, il y a aussi le mot « confiance ». Et donc dans la foi, il n'y a pas que quelque chose d'intellectuel, mais aussi quelque chose de l'ordre de l'état d'esprit. Dans le fait qu'on n'attend pas tout et n'importe quoi de Dieu, mais qu'on sait qu'il y a en Dieu quelqu'un en qui on peut faire confiance. En ce sens, j'ai une petite histoire qui m'a été racontée par une paroissienne qui était une grand-mère et qui m'a raconté que son petit-fils, un jour, entre dans une église et voit Jésus, dans une église catholique, puisque chez les protestants il n'y en a pas, un Christ accroché sur la croix. Et le petit enfant regarde ce Christ en train de souffrir sur la croix. Et il dit à sa grand-mère, il dit « Tu vois, mamie, ça ne me serait jamais arrivé. » Alors la grand-mère lui dit « Pourquoi donc ?» Il lui dit « Parce que si je m'étais trouvé un jour dans cette situation, papa serait venu tout de suite me chercher. » Et donc ça, c'est évidemment l'image même de la confiance enfantine. Je reviendrai là-dessus parce que ça pose du coup des problèmes théologiques considérables de savoir est-ce que Dieu a abandonné Jésus et qu'est-ce qu'il lui a donné et jusqu'à quel point nous pouvons faire confiance. Mais en tout cas, il y a dans la foi cette dimension qu'il ne faut pas oublier. Encore autre chose, et peut-être plus important encore, c'est que pour accueillir le royaume de Dieu, eh bien, l'enfant nous donne un bon exemple, parce que l'enfant, curieusement, n'a rien de ce après quoi nous courons. Nous voulons... Nous essayons de réussir, nous voulons avoir de l'argent, des diplômes, un métier, une belle voiture, une belle maison de campagne, ou je ne sais quoi, des amis, une réussite, des signes extérieurs, des beaux vêtements. Et l'enfant n'a rien. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas de métier, il n'a pas d'autonomie. Et même, ça fait réfléchir aussi à la question du troisième âge, par exemple. Nous disons, mais c'est affreux, je ne veux pas vieillir, je ne veux pas qu'on me mette des couches. Je ne veux pas être dans une chaise roulante, je ne veux pas ne plus pouvoir marcher. Pourtant, l'enfant lui met des couches, il ne sait pas marcher, il ne sait pas parler, il n'est rien. Et nous disons, mais l'enfant, c'est la chose la plus belle. C'est ce que nous aimons. L'enfant qui n'est capable de rien. Et ça, c'est vraiment une sacrée leçon que nous donne l'enfant. Parce qu'il nous montre que la valeur d'un être ne dépend pas de ce qu'il est capable de faire. La valeur d'un être ne dépend pas de ce qu'il a accumulé, de ce qu'il possède, ne dépend pas de son statut social, mais la valeur d'un être, elle est d'une autre nature. Et là, vraiment, je crois que ça nous rappelle quelque chose. De dire, vous voyez, un être, il compte pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est, en tant qu'être. Et cet enfant, tout petit, ce bébé, qui ne peut rien, qui ne sait rien, qui ne parle pas, qui n'est pas autonome, qui ne peut même pas se nourrir lui-même, nous disons... Eh bien, c'est un enfant de Dieu et c'est quelqu'un d'infiniment important et d'essentiel. Et en ce sens, je trouve que le signe du baptême donné à des enfants tout petits est l'une des plus belles choses que l'Église puisse faire. Justement, de dire, il n'y a pas besoin d'attendre qu'un enfant ait fait sa première communion pour qu'on l'aime, ou qu'il ait un diplôme, qu'il ait son bac, mais c'est quelque chose de premier et il y a quelque chose d'intrinsèque dans la vie humaine que cette valeur infinie de l'être. Alors qu'est-ce qui donne de la valeur à cet être enfantin ? Peut-être que c'est le fait tout simplement d'être aimé. Et finalement, oui, c'est ça, la seule valeur d'un être humain, c'est d'être aimé et de savoir aimer, et d'être dans une sorte de naturel et de simplicité des rapports humains. L'enfant est, je dirais, transparent à la relation, il est disponible, évident, immédiat dans la relation. Et l'enfant a une valeur simplement parce qu'il aime et parce qu'il est aimé. Et c'est ça la seule valeur d'une vie. Et je crois que rien que pour ça, eh bien, il est bon que les enfants nous fassent entendre leur voix et pas simplement les docteurs en lettres. Et puis enfin, je vous donnerai un dernier élément qui est, je crois, faux, mais en même temps le plus intéressant. Faux parce que je crois que c'est trahir le texte que de lire le texte comme ça, mais je crois que c'est fondamental. c'est qu'en effet, certains esprits tordus, il y a toujours des esprits tordus chez les théologiens, ont dit, quand Jésus dit qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant, il ne dit pas qu'il faille accueillir le royaume de Dieu comme un enfant accueillerait quelque chose de l'ordre du royaume, mais qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme des parents accueillent un enfant, ou comme nous, nous savons accueillir un enfant. Je ne suis pas sûr que ce soit ça que veut dire le Christ, mais néanmoins, cette idée me semble extraordinairement juste et vraie. Parce que accueillir un enfant, c'est accueillir la vie. Et finalement, accueillir le royaume de Dieu, c'est ça aussi. C'est accueillir la vie, mais accueillir la vie, accueillir une vie plutôt qui n'est pas la nôtre, une vie qui nous est donnée et qui prolonge notre propre vie. C'est pour ça qu'on aime aussi nos enfants, parce que nous, nous mourrons et on espère que nos enfants pourront nous survivre. Et par conséquent, accueillir un enfant, c'est accueillir une vie qui n'est pas la nôtre et qui nous dépasse. Et accueillir le royaume de Dieu, c'est ça aussi. C'est accueillir une vie qui ne vient pas de nous et qui nous dépasse et qui nous prolonge dans une sorte de désir d'éternité et de vie éternelle. Et en même temps, accueillir un enfant, ben je parle à tous les jeunes parents qui sont là, vous savez que c'est quelque chose d'extraordinairement dérangeant. Si vous voulez être bien tranquille dans votre vie, n'ayez pas d'enfant. Et je dirais de même, si vous voulez être bien tranquille dans votre vie, n'allez pas à l'église, ne vous posez pas de questions, ne lisez pas l'évangile. Mais accueillir le royaume de Dieu, c'est accepter d'être dérangé. C'est accepter peut-être de se réveiller la nuit en se disant « Mais qu'est-ce que je fais là dans mon boulot ? Et qu'est-ce que je fais là dans ma relation aux autres ?» Accepter d'accueillir cette dimension du royaume de Dieu, c'est accepter de mettre dans sa vie, je dirais, un germe de vie qui est fondamentalement porteur de vie éternelle et en même temps fondamentalement dérangeant, fondamentalement hétérogène. Et quelque chose qui va nous empêcher de danser en rond, qui va nous empêcher de vivre tranquillement. Mais le but de la vie, ce n'est pas d'être tranquille. Le but de la vie, ce n'est pas de ne pas se poser de questions. Le but de la vie, c'est d'être en route. Et ça, c'est vrai pour les petits-enfants, parce que les petits-enfants sont dérangeants. Mais pour ce qui est des questions, vous en aurez encore plus quand les enfants seront grands. Et se confronter à des enfants grands, c'est se poser et accepter de vouloir soi-même être encore dérangé par des questionnements, par des remises en cause. Eh bien ça, c'est la vie. Alors si vous avez des enfants, ces questions, vous les poserez naturellement. Je crois que les enfants sauvent l'humanité. Parce que même les parents qui ne sont pas chrétiens et qui ne réfléchissent à rien, les enfants les forcent à aimer, les forcent à se poser des questions et à se remettre en cause, et les forcent à sortir de leur égoïsme. Donc les enfants sauvent l'humanité. Mais si vous n'avez pas d'enfants, ou même si vous en avez, eh bien vous pouvez justement être capable de découvrir cette dimension et d'accueillir cette vie extérieure qui nous donne à nous-mêmes la vie. Et donc d'accepter d'être dérangé par une dimension autre que la nôtre pour pouvoir accéder à une autre dimension de la vie, savoir faire place à de l'autre. Et ça, c'est vraiment comme cela que l'on peut accueillir le royaume de Dieu. Ce royaume qui nous est à la fois donné et qui nous est demandé de savoir recevoir comme un enfant reçoit et comme nous, nous recevons les enfants pour notre plus grand bonheur et simplement pour le triomphe, je dirais, de la vie et de l'amour. Amen.